Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Seconde partie, Lafayette chez les cow-boys et les Indiens. Nous avons laissé Gilbert de Lafayette à ses préparatifs de départ pour l'Amérique. Son beau-père, le duc d'Ayen, apprenant que son gendre s'apprête à quitter sa femme alors enceinte, entre dans une colère folle. Fort de ses appuis au gouvernement, le duc d'Ayen obtient du roi une lettre de cachet. Le capitaine Lafayette a interdiction de quitter le territoire, sous peine d'être intercepté en mer, arrêté et mis au fer. Après un moment de stupeur et de découragement, on le serait à moins, Lafayette s'entête, achète un bateau et trouve l'équipage nécessaire à son voyage. Il se rend à Bordeaux, puis en Espagne, où le navire affrété l'attend. Et là, coup de théâtre, il reçoit l'ordre de rejoindre sans délai sa famille qui l'attend dans le sud-est de la France. Sa femme, ses enfants, son beau-père et sa belle-mère souhaitent partir avec lui en Italie. On ne lui laisse pas le choix.
Les lettres de ma famille furent terribles et la lettre de cachet péremptoire. Défense d'aller au continent américain sous peine de désobéissance. Injonction d'aller à Marseille attendre de nouveaux ordres.
Une telle sommation aurait pu faire mouche sur tout autre esprit que celui de Gilbert. Mais le duc d'Ayen croit-il vraiment pouvoir ramener au bercail un jeune homme qui ne rêve que d'aventure et de gloire? On veut l'empêcher de partir? Il va ruser, contourner l'obstacle. Son navire, qui porte le nom prédestiné de la Victoire, eh bien ce navire est prêt, il n'attend plus que lui. Gilbert feint un départ vers l'est de la France. Puis, ayant revêtu un déguisement, il vire à bride abattue vers l'Espagne. Le 7 avril 1777, il arrive sur le petit port de Los Pasajes de San Juan, près de la frontière espagnole. Le capitaine, un certain Le Boursier, l'attend. La Victoire est entièrement équipée. Si tous les uniformes ont été achetés comme prévu, l'armement est le maillon faible du dispositif. Le navire n'a en tout et pour tout que 2 canons. C'est peu quand on sait que les flottes anglaises et françaises rivaliseront de zèle pour arrêter celui qui est un déserteur pour les uns et un ennemi pour les autres. Lafayette a déjà prévu le pire. On gagnera l'Amérique d'un seul trait, sans escale. L'entreprise est si extravagante qu'il a pris soin de cacher ce détail à Le Boursier. Ce dernier, persuadé qu'on met le cap sur les îles, ignore encore qu'il n'est pas nommé capitaine pour une croisière d'agrément, mais pour une mission de guerre. Gilbert ne s'en inquiète pas. Il sera bien temps, une fois en mer, de contraindre Le Boursier à changer de direction. Après tout, le propriétaire du bateau, c'est lui. Une fois au large, Lafayette écrit enfin à son épouse.
« C'est de bien loin que je vous écris, mon cher cœur, et à ce cruel éloignement je joins l'incertitude encore plus affreuse du temps où je pourrais savoir de vos nouvelles. Que de craintes, que de troubles j'ai à joindre au chagrin déjà si vif de me séparer de tout ce que j'ai de plus cher. Comment aurez-vous pris mon départ? M'en aurez-vous moins aimé? M'aurez-vous pardonné ?»
Le voyage sur cet océan, qu'il qualifie dans sa correspondance de « triste plaine », paraît à Lafayette des plus fastidieux, mais au moins lui donne-t-il l'occasion d'apprendre à parler l'anglais. La traversée dure 2 mois. Enfin, le 15 juin 1777, la Terre est en vue. Mais où accoste-t-on exactement? Près du rivage, des pêcheurs d'huîtres aperçoivent le navire et s'enfuient. Lafayette a cru reconnaître ceux qu'il identifie immédiatement comme des esclaves. Il éprouve un pincement au cœur. Ce même malaise qu'éprouvera Chateaubriand quelques décennies plus tard en posant le pied sur le Nouveau Monde.
« Ce fut une esclave qui me reçut sur la terre de la liberté. »
La chance sourit aux audacieux. De fait, la Victoire n'est pas loin du port de Charleston, Et comble de fortune, les navires anglais qui croisent d'ordinaire au large se sont éloignés depuis 2 jours pour esquiver une tempête. Lafayette et ses compagnons posent pied à terre. Un peu plus loin, une maison. On s'y dirige d'un pas lent. La terre ferme après 2 mois de mer paraît danser sous les pieds des nouveaux arrivants. La chance, une fois de plus, est au rendez-vous. Le propriétaire, un certain major Hugger, fait partie des insurgés. L'accueil est enthousiaste. Le lendemain, Lafayette est conduit chez les autorités de la ville de Charleston. Et là, c'est la première déconvenue. Il réalise soudain qu'ici, on se méfie de ces volontaires français venus soi-disant prêter main forte aux insurgés. La plupart du temps, ce sont au mieux des va-nu-pieds, au pire des criminels en fuite. Lafayette est reçu brièvement par le gouverneur qui l'envoie rapidement promener. Le 27 juillet suivant, il se trouve à Philadelphie où il espère être reçu par le Congrès. Nouvelle déception. La ville regorge de Français, tous parés de grades fantaisistes et riches d'exploits imaginaires. La seule vocation sincère, c'est d'étaler leurs nombreux mérites pour délester les Américains de leur argent. Gilbert de Lafayette accuse le coup. Mais on ne saurait venir aussi facilement à bout de son enthousiasme. Quelques jours plus tard, il écrit au Congrès une lettre qui va stupéfier ceux qui s'apprêtaient déjà à le renvoyer en France.
« D'après mes sacrifices, j'ai le droit d'exiger 2 grâces. L'une est de servir à mes dépens, l'autre est de commencer à servir comme volontaire. »
Le président du Congrès, John Hancock, est sidéré. Tant de désintéressement, tant de fougue ne peuvent signaler qu'un cœur noble. Le 1er août 1777, on invite ce jeune Français, décidément différent de ses compatriotes, à participer à un dîner où, honneur insigne, il va pouvoir rencontrer le général en chef des armées rebelles, George Washington. Le jour venu, dans la foule d'officiers et de notables qui remplissent la salle du Congrès, Lafayette identifie immédiatement celui qui va devenir pour lui un mentor et un père. Âgé de 45 ans, c'est un homme de noble prestance.
Dans ce groupe d'hommes en uniforme, Gilbert distingue du premier coup d'œil celui qui est le chef suprême de la Révolution. Il va droit vers lui, comme poussé par une force magnétique. Cette majesté naturelle, cette courtoisie bienveillante et réservée à la fois à l'égard de chacun des hôtes, quel que soit le grade ou la fonction, sont des signes qui ne trompent pas. Il n'a pas 20 ans, mais il a déjà rencontré des rois, des princes, des chefs d'armée, des hauts dignitaires de toutes sortes, en Angleterre comme en France, et aucun de ces grands personnages qu'il a eu le privilège d'approcher n'avait l'allure, le maintien, la présence en un mot, de ce chef d'une troupe de révoltés.
En ce début août 1777, une des plus grandes histoires d'amitié de la fin du XVIIIe siècle commence à être écrite. Les deux hommes sont unis par le même idéal et la même foi dans la liberté. Ils ont aussi un point commun non négligeable, tous les deux sont francs-maçons. En quelques jours, les liens qui se tissent entre eux sont d'ordre filial. Gilbert trouve dans cet homme plus âgé de 25 ans le père qu'il a perdu étant jeune. Washington, qui a 5 filles mais pas de fils, vient d'en trouver un. Il confirme Lafayette dans ses galons de général, lui dresse au fil des jours un état des lieux de la rébellion. La situation est loin d'être reluisante. L'armée est mal organisée, les soldats sont en guenille. Pour la plupart, ce sont des trappeurs, des paysans ou de simples cow-boys. L'armement manque cruellement. Lors d'une revue des troupes, alors que Washington se tourne vers son poulain pour lui demander s'il a un conseil à donner, Lafayette lui répond
« Je ne suis pas là pour enseigner, mais pour apprendre. »
Il n'a pas fallu longtemps pour que la noblesse du propos vienne confirmer la noblesse du cœur. L'histoire semblait s'être arrêtée un instant, pour donner à ces deux êtres d'exception de se rencontrer dans le silence d'une paix comme instaurée pour la circonstance. Mais elle va reprendre son cours avec furie. Dès le mois de septembre, l'Anglais menace de nouveau. La Royal Navy, débarquée dans la baie de Chesapeake, fond dans les terres. Il s'agit de contourner les insurgés et de les prendre en tenaille. Le 11 septembre, Washington prend la décision d'attaquer la colonne du général Cornwallis qui se trouve vers la rivière Brandywine. Le but n'est pas d'écraser l'ennemi, mais de sortir de la nasse où il veut enfermer l'armée insurgée. Lors de cette bataille, Washington parvient à rompre l'encerclement. Lafayette se distingue par son courage et par sa capacité de commandement. Blessé au mollet par une balle de fusil, il s'est fait remettre en selle, a réorganisé son unité et l'a menée avec lui hors du piège dont elle n'aurait jamais dû sortir. Pour lui, qui vient à peine de fêter ses 20 ans, c'est une grande victoire. Ses faits d'armes sont cités au Congrès. Ceux des insurgés qui doutaient encore de sa vaillance sont forcés de reconnaître sa valeur. Soigné par les frères Moraves, une congrégation religieuse protestante, il savoure les premiers délices d'une gloire convoitée depuis l'enfance. Non seulement il est général à 20 ans, mais l'armée qui lui a été confiée est en tout point conforme à son idéal. C'est une armée d'hommes prêts à mourir pour le seul nom de liberté. Pourtant, tout va très mal. La force des armées anglaises est écrasante. Le 26 septembre, Washington est contraint d'abandonner Philadelphie. Retranché à Valley Forge en Pennsylvanie, son armée dépérit. Lafayette, durant le terrible hiver 1777, se rapproche de ses soldats dont il partage le dénuement, en même temps que les espérances.
Il s'impose encore, ce général de 20 ans, par son sens de l'équité, son aptitude à commander sans humilier ni brutaliser. Ce sont pourtant des bougres durs à mener, ces Virginiens qu'il a reçu l'ordre de diriger sur Valley Forge. Les pires soldats de l'armée américaine, selon les colonels et les généraux qui les ont commandés. Grossiers, brutaux, ivrognes, chapardeurs, querelleurs, fortes têtes, arrogants, indisciplinés sur toute la ligne, ne comprenant que les coups de gueule et les coups de poing bien assénés.
Durant des semaines, alors que le découragement semble gagner toute la hiérarchie, Lafayette veille sans relâche au maintien de la discipline. C'est dans ces conditions plus qu'incertaines qu'une nouvelle venue de France va raviver la flamme sur le point de s'éteindre. La France, qui a déjà reconnu l'indépendance des États-Unis, a contracté avec la nouvelle nation une alliance militaire et signé un traité commercial. Un nouvel élan est donné aux insurgés. Lafayette est nommé à la tête de l'armée du Nord. On lui confie la mission de chasser l'Anglais hors du Canada, pas moins. Une opportunité extraordinaire pour venger le traité de Paris qui a naguère privé la France de ses terres canadiennes. Il ne pourra, hélas, réaliser ce rêve. L'armée qu'on lui confie est hors d'état de combattre, surtout dans les conditions climatiques très difficiles qu'elle va devoir affronter. Il ne se décourage pas pour autant. Le Canada, c'est aussi toutes ces tribus indiennes qui étaient auparavant alliées de la France et que les Anglais ont achetées à coups de distribution d'armes et de rhum. Le 9 mars 1778, Lafayette, mandaté par le Congrès, se présente seul lors d'un rassemblement de plusieurs tribus. Il y risque sa peau, ou plutôt son scalp, mais une fois encore, la fortune lui sourit. Il a choisi de s'exprimer en français. Or, de nombreux Indiens ont le souvenir de ce temps où les Français, leurs alliés, étaient leurs frères de sang dans cette guerre de 7 ans que les Anglais avaient appelée « French and Indian War ». Toujours est-il qu'à peine a-t-il parlé quelques secondes, un homme se lève au milieu des autres. C'est un Français, un ancien soldat de Louis XV. Resté sur place après le départ de ses compatriotes, il a décidé de se faire indien. Lafayette est aussitôt adoubé. Une clameur joyeuse s'élève dans l'assemblée. Les chefs de tribu le baptisent aussitôt. Il sera Kayula, cavalier intrépide. Ce nom a déjà été porté par les plus prestigieux guerriers indiens. Tous se lèvent pour acclamer celui qu'ils considèrent dès lors comme l'un des leurs. Oneidas, Kayunkas, Mohawk, Tuscarora, Senecas, approuvés par les Iroquois, vont dès lors se rallier à l'insurrection, aux côtés des armées de Washington. Après avoir conquis le cœur des cow-boys de l'armée insurgée, Lafayette a conquis celui des Indiens. Cependant, les renforts attendus de France sont arrivés. La flotte française, restaurée avec brio par Louis XVI, s'est augmentée de 55 navires de guerre et de dizaines de frégates. Hélas, les amiraux désignés par le roi pour prêter main-forte aux insurgés vont se montrer bien en dessous de ce qu'on attend d'eux. L'amiral d'Estaing, notamment, qui commande l'ensemble de la flotte, enchaîne les bévues puis les échecs. Les mouvements désordonnés qu'il imprime à ses bateaux manquent même de déclencher une insurrection chez les Américains, qui croient à une désertion des Français. Lafayette, épuisé par des mois de bataille, n'a guère de force pour s'occuper de ce mauvais commandant. Après avoir calmé la foule qui s'apprêtait à lyncher l'amiral, il obtient l'autorisation de revenir en France, non sans avoir été cité au Congrès, pour « gallantry, skill and prudence », bravoure, compétence et prudence, et avoir reçu en cadeau une épée gravée de ses insignes de franc-maçon. En janvier 1779, Lafayette embarque pour la France. Il reviendra un an plus tard sur les terres de ses gloires. Mais pour les Français comme pour les Américains, il a déjà inscrit son nom dans l'histoire comme héros des deux mondes. Il n'a pas 22 ans. C'est la fin de ce double épisode consacré au général Lafayette, héros de la guerre d'indépendance américaine. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est de Victor Nolo. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.